qu'il y a des sujets qui devraient faire l'objet de régulation, où pour l'instant, dans le G20, c'est non. Par exemple, rien n'est dit sur le système monétaire international. Or, évidemment, c'est un des grands sujets. Vous pouvez régler tout ce que vous voulez. Si les pays ont la possibilité de faire varier la valeur de leur monnaie en fonction de leurs propres intérêts, évidemment, tout est à terre. Les États-Unis ont un dollar qui, par mécanisme extraordinaire, sert toujours les intérêts des États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis sont dans une situation où, sans avoir d'épargne, leur monnaie qu'ils émettent, ils peuvent en émettre autant que ce qu'ils veulent, est la monnaie du monde. La phrase célèbre d'un ministre américain qui disait « Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. » Et ça n'a pas changé. D'où cette discussion passionnante qui va être vraiment un des sujets fondamentaux, mais non abordé au G20. Vous avez vu que les Chinois, qui sont les plus grands emprunteurs des Américains, puisque ce sont les Chinois qui achètent l'essentiel des bons du Trésor américain, et donc l'un et l'autre se tiennent dans la barbichette. Bon, car quand vous êtes un grand emprunteur, les États-Unis empruntent énormément à la Chine, vous tenez votre créancier. Si vous effondrez, votre créancier a des choses qui ne valent plus rien. Donc, les Chinois ont, il y a quelques jours, dit « Il faut créer une monnaie mondiale. Ça ne peut plus être le dollar. Il faut que ce soit une monnaie assise sur les principales monnaies du monde, le dollar sans doute, mais aussi l'euro, mais aussi le yuan, mais aussi le yen, et aussi les DTS créés par le Fonds monétaire international, et pourquoi pas, y ajoute certains, une monnaie planète, en fonction des considérations d'environnement. Et les Russes ont dit, oui, dollar, à terme, non, il faut une monnaie mondiale. Cette question qui est fondamentale. Parce que, on peut dire, les droits de douane, c'est 10%, 20%, 30%. Mais si du jour au lendemain, la monnaie, dans ses parités, varie de 10%, 20%, 30%, alors les droits que vous avez fixés n'ont aucun sens. Donc cette question n'est pas traitée. Pas plus que les traités, elle ne pouvait pas l'être. La question fondamentale pour le futur, du rapport Chine-Amérique. Et du rapport Chine-Amérique-Europe. Car, on en parlera, j'espère, s'il reste un petit peu de temps, c'est trop long. On voit bien que les deux puissances qui vont dominer la séquence, c'est la Chine et les États-Unis. Mais si l'Europe n'est pas capable de faire plus son unité, d'agir de manière économique plus coordonnée, d'être plus offensive, on dit, c'est vrai dans la vie privée, c'est également vrai dans la vie publique, que quand il y a un triangle, il ne peut pas être le troisième. Donc si l'Europe n'existe pas, il y aura un accord Chine-Amérique et ce sera l'Europe qui sera le dans la fin. Cette question n'est évidemment pas abordée. N'est pas abordée, sauf marginalement, mais de manière insuffisante, la question du sort des pays pauvres dans tout cela. Car la crise que nous subissons est sans commune mesure avec la crise des pays pauvres, qui prennent tout et au carré, voire au cube. Et si on n'a pas un traitement spécial pour ces pays en termes de financement, évidemment, on va à la catastrophe. Et je dis souvent que si on ne le fait pas par générosité, alors qu'on le fasse par égoïsme, quel sens peut avoir de discuter du problème des migrations, qui est un vrai problème, une vraie question, les migrations internationales. Notre intérêt, tous, est d'arriver à ce que, par exemple, l'Afrique se développe, pour qu'il n'y ait pas des migrations incontrôlées. Mais c'est complètement illusoire de penser que ces migrations pourront être contrôlées s'il n'y a pas un développement africain. Bon, il suffit de regarder la géographie. Les Africains, s'ils n'ont rien pour opérer leur développement, ils ne vont pas aller traverser l'océan pour aller en Amérique. On sait où ils iront. Donc si on ne le fait pas par générosité, qu'on le fasse par d'autres considérations, cette question n'est pas traitée. De la même question, de la même façon, je vais dire plus évident ou plus compliqué, n'est pas traité non plus la question qui est pourtant à l'origine de la crise, celle du taux de rentabilité. Et accessoirement, on verra exactement ce qu'il y a dedans, la question de la liquidité. Il faut que des mécanismes soient mis en œuvre pour passer sans cesse du court terme au long terme et passer sans cesse du financier à l'économique et de l'économique à l'humain. Et ça, évidemment, ça heurte des intérêts pas seulement nationaux ou internationaux, mais des intérêts concrets, matériels, financiers de milliers de gens qui sont également les principaux dirigeants, les principaux cercles dirigeants du monde. Donc vous voyez l'énormité de la tâche. Et puis, il y a à mettre en cause un certain modèle de développement qui est celui qui nous a conduit là où nous sommes, c'est-à-dire, il y a des pays, Chine et d'autres en développement, qui exportent, et nous empruntons. Mais ce modèle est par définition un modèle de déséquilibre. Je dirais à la limite, si on était un grand architecte de l'univers, parfois on me dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. C'est facile de faire l'exercice Nyaka, etc. Répond par une boutade. Il faudrait que la Chine devienne communiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, la Chine bâtit son développement sur des exportations massives. Il faut peu à peu qu'elle arrive à développer son marché intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un système de retraite, qu'il y a un système d'éducation, qu'il y a un système d'investissement, il y a un marché intérieur considérable. C'est la seule manière d'éviter le déséquilibre actuel. Et il faut que les États-Unis, au lieu de trouver leur salut dans le fait qu'ils vivent à crédit payé par le reste du monde, épargnent et qu'ils rééquilibrent à la fois leur commerce et leur balance budgétaire.